La première, podcast.
La première,
9h-10h, le dimanche,
les Belges du bout du monde,
avec Adrien Jevenot.
Bonjour à toutes et à tous. L'homme doit s'élever au-dessus de la Terre, jusqu'au sommet de l'atmosphère et au-delà, car ce n'est qu'ainsi qu'il pourra comprendre pleinement le monde dans lequel il vit. C'est signé Socrate et 2,5 millénaires plus tard, nous accueillons Omar dans les Belges du bout du monde. Omar Lahmoumi. Bonjour Omar, vous êtes ingénieur aérospatial à Kourou.
C'est ça. Bonjour Adrien. Tout à fait, je suis ingénieur en aérospatial et je travaille actuellement à Kourou, au Centre Spatial Guyanais, pour le compte de l'Agence Spatiale Française.
Depuis longtemps ?
Depuis septembre 2018, donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant.
2024 est une année super importante à Kourou.
Tout à fait, c'est une année charnière où l'année passée, on a justement connu la fin d'Ariane 5. Et cette année, on espère que s'envolera depuis Kourou, Ariane 6 et aussi la fusée Vega pour son retour en vol.
En deux mots, votre job ?
En deux mots, mon job, je suis responsable des ensembles de préparation satellite. Donc simplement, ce sont les bâtiments qui accueillent les satellites au Centre Spatial Guyanais avant leur intégration sur la fusée.
Pas mal pour un petit gars qui a grandi à Châtelineau, qui a fait ses humanités à Gilly, et puis Polytech à Mons. Super parcours qu'on va raconter. Mettre en parallèle avec quelqu'un qui a un peu la même trajectoire que vous. Elle est en ligne avec nous, une ennuyeuse qui a des étoiles dans les yeux. L'astrophysicienne Yaël Nazé. Bonjour Yaël.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse FNRS, spécialiste des étoiles massives et de leur interaction avec leur environnement. Vous fêtez cette année le 20e anniversaire de votre doctorat ?
Oui, c'est vrai. Ça fait déjà pas mal de temps, effectivement. On vieillit, Adrien, on vieillit.
Oui, et encore plus, peut-être 35 ans de notre première émission radio. Dans les années 90, vous étiez une jeune adolescente. Vous vous souvenez de ce voyage ?
Oui, oui, tout à fait. Nous sommes allés à Munich, hein, au quartier général de l'ESO. C'était vraiment un super truc. On s'est bien amusé. Moi, j'ai découvert plein de choses et voilà, c'est super amusant. Et puis bon, voilà, c'était vraiment voir un peu comment ça se faisait l'astronomie en vrai, quoi. Et donc, voilà, ça a confirmé ce que je voulais faire. Et puis voilà, de Mons, je suis passée à Liège et j'ai fait effectivement mon doctorat sur l'astrophysique. Et donc j'ai bifurqué un petit peu d'ingénieur vers l'astronomie, mais bon, c'était ce que je voulais faire, donc voilà.
Toujours avec le même enthousiasme. Moi, j'adore votre pêche, votre niaque, votre sourire. Sur notre plateau, la relève, Johanna Dimitrova. Bonjour Johanna.
Bonjour Adrien.
23 ans, étudiante en sciences spatiales à l'ULIège. Je crois que Yaël Nazé, c'est une voix que vous entendez souvent.
Alors oui, je l'ai pas mal entendu une fois par semaine pendant ce premier semestre.
Vous l'avez eu comme professeur.
Oui, tout à fait.
Johanna, vous vous définissez comme une future astronaute ou une future astronaute ?
L'idéal serait faire un peu des deux. Astronaute, c'est peut-être un peu ambitieux, mais il faut toujours essayer.
Bien sûr, bien sûr. À force de viser la Lune, on atterrit dans les étoiles. Hein. C'est bien connu. La première belge, femme belge dans l'espace, ce sera peut-être vous. Elle a ses chances, Yaël ?
Il y a de plus en plus de gens qui vont dans l'espace, donc oui, pourquoi pas, tout à fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'elle ait moins de chance que d'autres, au contraire, donc voilà.
Avec nous, Johanna, un de vos modèles, c'est la magie des ondes, il sera régulièrement dans ces Belges du bout du monde. C'est notre ami astronaute belge de l'Agence spatiale européenne, Raphaël Liégeois.
Loin du soleil, loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute. Loin du soleil, loin du soleil, je rêve d'être astronaute.
L'ESA, l'Agence spatiale européenne, garantit aux 5 astronautes de carrière, ça s'appelle, c'est le titre qu'on a, candidat astronaute de carrière, de faire au moins un vol. Après, on verra ce qui se passe pour la suite. La classe précédente a volé 2 fois, ils ont tous volé 2 fois. Donc voilà, on met déjà un vol vers l'ISS, ce serait extraordinaire.
Oui, alors je vous ai préparé quelques surprises. La première, elle est pour vous, Raphaël. Tendez l'oreille.
Les Belges du bout du monde.
On m'appelle Dirk Zimut, je suis un astronaute. Et comme je m'appelle Dirk, ma vie n'est pas un cirque.
quand je suis dans l'espace, je trouve pas ça dégueulasse. Voler dans la pesanteur, ça me fait pas peur.
Dirk Freimuth, vraiment le plus célèbre des astronautes belges, vole dans l'espace du 24 mars au 2 avril 1992 dans le cadre de la mission Atlantis, le tout premier belge à être parti dans l'espace. Aujourd'hui, il reste une icône en Belgique et un auditeur de la première. Il est avec nous dans les Belges du bout du monde. Bonjour monsieur Freimuth.
Bonjour monsieur.
Et je crois que vous êtes heureux de féliciter Raphaël Liégeois.
Ah oui, oui, absolument. Je suis très contente. D'abord, je dois le féliciter. C'est fantastique parce que il a commencé avec 22 000 candidats et finalement, il est resté avec les 6 derniers. Donc, c'est fantastique ça.
Go, go for Belgium aussi. C'est un peu sur les traces de Tintin et sur vos traces à vous, monsieur le vicomte.
Oui, oui, mais c'est temps qu'on a à nouveau un jeune qui prend la poursuite de ce qu'on a fait. Hein. Donc, pour moi, c'est 30 ans que j'ai été dans l'espace.
Oui, il y a 30 ans, effectivement, c'était en 1992. Quels souvenirs vous gardez de cet exploit, M. Freimuth, et qu'est-ce que vous avez envie de conseiller à Raphaël?
Oh, c'est quelque chose de formidable de pouvoir faire ça, effectivement. Pour moi aussi, dans ma vie, c'est l'événement le plus important. Il faut avoir beaucoup de patience et persévérer parce que Raphaël est maintenant sur la bonne voie pour y arriver. Mais ça ne va pas être demain, ça va peut-être un peu plus long, mais il va y aller finalement, hein, s'il tient le coup, parce que ce n'est pas toujours facile.
Oui, merci pour vos conseils de sage. Donc patience, patience. Allez, avant 2030 ou peut-être en 2030 pour les 200 ans de la Belgique?
Ça va être avant 2030. Hein, donc il aura de la chance d'aller dans l'espace. Il a tous les dons pour y arriver. Hein. C'est un très bon.
La tête dans les étoiles et les pieds bien sur Terre en attendant de repartir. Merci beaucoup, M. Freimuth.
Merci bien de m'avoir contacté pour ça. C'est avec plaisir que j'ai fait ça.
Raphaël, les encouragements de Dirk Freimuth, je vois que ça vous fait chaud au cœur.
C'est très touchant, c'est évidemment des personnages qui ont construit aussi notre imaginaire. Au-delà de Tintin, Dirk Freimuth, c'était le premier. J'étais un peu petit encore.
Vous aviez 4 ans.
J'avais 4 ans, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai plus suivi les décollages de Frank de Wynne. Voilà, évidemment, c'est génial d'avoir leurs encouragements et aussi impressionnant de s'inscrire dans la suite de ces géants.
Et pour envoyer des Belges dans l'espace, il faut des ingénieurs, comme Omar Lamoumi. Comment est-ce qu'on devient ingénieur? C'est un peu le même parcours que Raphaël Liégeois?
C'est ça. Donc pour devenir ingénieur, en tout cas en Belgique, il y a ce premier passage par l'examen d'entrée en école d'ingénieur qui donne accès aux écoles d'ingénieurs en Belgique. Donc soit la Polytechnique Mons, dont je suis issu, soit à Bruxelles, Louvain ou Liège, pour la partie francophone. Et puis moi, dans mon cas, j'ai eu la chance de faire un double diplôme à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, qu'on appelle SUPAERO, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans le spatial à Toulouse, qui est très réputée. Et pour info, c'est de là où sort l'astronaute français, Thomas Pesquet, également Sophie Adnaud, qui a été récemment nommée en tant qu'astronaute, la première femme astronaute française. Non, c'est pas la première, mais en tout cas, c'est une des seule femme astronaute française. Donc voilà, c'est vraiment ce parcours-là, en tout cas, qui est une des voies vers le métier d'astronaute et vers l'espace.
Toulouse, vous avez peut-être chopé un peu l'accent français, hein, parce que j'ai pas reconnu l'accent carolo. Hein.
Ouais, malheureusement, je suis trahi par ce passage à Toulouse qui a fait que j'ai laissé de côté malheureusement l'accent belge. Ouais.
Et puis 5 ans de Guyane, hein, quand même.
Exact, ouais,
avec qui est beaucoup de Français autour.
Tout à fait.
On est en France. Hein,
oui, bien sûr, tout à fait, tous mes collègues.
Alors, belge d'origine marocaine, hein, Omar Lamoumi. Oui. Votre grand-père était venu travailler dans les mines. Bois du Luc, je crois. Vous avez toujours évolué dans un milieu avec une culture différente de la vôtre. Ça a aiguisé votre faculté d'adaptation?
Oui, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est que depuis tout petit, en fait, j'ai toujours grandi entre, on va dire, deux cultures. Une à la maison, qui est la culture marocaine. Et puis, quand j'étais à l'école, à l'extérieur, ben voilà, il y avait beaucoup d'amis belges autour de moi. Il y avait aussi d'autres étrangers, des Italiens, des Congolais, ce qui fait qu'on a toujours grandi finalement dans un milieu où s'adapter était non pas une nécessité, mais il fallait s'adapter à tout le monde et s'ouvrir aux autres,
ouais,
surtout.
Ouais. Johanna Dimitrova, c'est un peu votre cas aussi. Hein. Vous, Dimitrova, ça vient de l'Est, j'imagine.
Tout à fait, mes parents sont bulgares.
Ouais. Vous avez grandi aux États-Unis et puis vous êtes arrivé un peu par hasard. Hein. Je crois que vos parents ont dû fuir le pays.
Tout à fait. Ouais, ils ont immigré vers les États-Unis et puis après, ils ont voulu retourner en Europe. Donc la Belgique, c'était un peu le juste milieu. Et je trouve aussi, comme Omar, que c'est vraiment cette diversité de culture. C'est une richesse que moi, en tout cas, j'utilise tous les jours. Et puis, je trouve qu'en Belgique, c'est pas quelque chose qui est bizarre. Enfin, je veux dire, la diversité, le mélange de cultures. Et en tout cas, ça m'apporte beaucoup au quotidien.
Du coup, vous parlez plein de langues différentes, ce qui est pas mal pour une candidate astronaute. Hein.
Ah oui, c'est vrai que ça, c'est fort pratique. Je remercie mes parents pour ça.
Yaël Nazet, vous aussi, hein, vos connaissances, elles sont astronomiques. Vous êtes l'auteur d'une douzaine de livres, quasiment tous primés. Il y en a un qui est paru en poche et qui a beaucoup de succès, c'est les femmes astronomes, justement. Vous parlez de la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova.
Les femmes astronautes, c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier. Hein, et c'est vrai que ça a été très, très difficile d'avoir la permission de mettre des femmes dans l'espace avec tout un ensemble d'excuses stupides pour ne pas avoir de femmes dans l'espace. Ça commence tout doucement à changer. On a des sélections d'astronautes dans les agences spatiales officielles qui tout doucement commencent à avoir un petit peu plus de femmes. Mais bon, c'est pas encore génial, et particulièrement côté européen. On n'a jamais eu qu'une seule Française, Claudie Nuret, qui est partie. On a eu zéro Allemande. C'est quand même deux gros pays, quoi. Donc bon, enfin, ça commence à faire un petit peu étrange, mais bon, voilà.
On compte sur Johanna pour briser le plafond de verre. Comme vous, vous l'avez fait, hein, Yaël. C'est pas mal, vous êtes arrivé quand même un peu au sommet de l'astronomie, là, près des étoiles.
Oui, enfin bon, moi je suis juste une chercheuse parmi d'autres, hein, et il faut savoir qu'en astronomie, on a une tradition d'avoir des femmes depuis très très longtemps. Les premières, c'est 2000 ans avant notre ère, donc je ne suis pas du tout une exception ou un cas particulier. Aujourd'hui, en astronomie, il faut savoir qu'on a, dans les études de master ou dans les études de doctorat, on est à moitié-moitié, hein, donc vraiment, l'astronomie a une longue tradition, en fait, d'inclure des femmes depuis très longtemps, et donc à ce niveau-là, on peut dire que c'est, une astronomie au féminin, vraiment, oui.
Allez, on enchaîne avec un peu de musique au masculin, avec Police sur la première, Walking on the Moon.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde.
Les Belges du bout du monde dans la Lune aujourd'hui avec l'astrophysicienne Yaël Nazet, l'ingénieur aérospatial à Kourou Omar Lamoumi, avec nous aussi de futurs astronautes Johanna Dimitrova, Raphaël Liégeois et sur nos écrans, Tintin et le capitaine Haddock.
Les Belges du bout du monde sur la première, Adrien Jouvenot.
Pourvu que nous puissions un jour y retourner.
Tintin, évidemment, avec le capitaine Haddock. Vous, Tintin, il vous a fait rêver, il a nourri votre imaginaire, Raphaël Liégeois, quand vous étiez gamin. Objectif Lune, et puis on a marché sur la Lune.
Oui, bien évidemment. Tous les épisodes de Tintin, et en particulier ces deux-là, Objectif Lune, on a marché sur la Lune. Je pense que je les ai relus des dizaines de fois. Et l'adaptation vidéo aussi, qui est extrêmement bien faite, je trouve. Et j'ai toujours un petit peu d'émotion à entendre le générique qu'on vient de réentendre.
Et vous, Omar, la momie ?
Tout à fait, c'est un peu le cas pour beaucoup d'enfants et plus particulièrement ceux qui ont grandi dans un environnement où on parlait beaucoup d'espace. Et moi, c'était mon cas à la maison, où justement, c'est mon père qui était aussi un grand passionné d'astronomie. Et voilà, j'ai toujours baigné dans cet environnement. En plus de ça, j'ai eu la chance d'avoir un cousin qui a fait le même parcours, donc qui est passé par Polytechnique Mons, par Super-Héro. Donc voilà, on va dire que depuis tout petit, j'ai vraiment baigné dans cet environnement.
Et vous, Yael Nazé, dans les inspirations, c'est quoi ? Tintin, Jules Verne, Marie Curie ?
Oui, Tintin peut-être, ou moi je dirais simplement regarder par la fenêtre et voir des petits points brillants dans le ciel et se demander ce que c'est. Je crois que ça a fait beaucoup de voir un petit peu tout ce qu'il y avait au-delà et qui n'était pas un lampadaire pour une fois, et se demander vraiment qu'est-ce que c'est que tout ce bazar qu'on voit finalement assez rarement en Belgique malheureusement à cause de ces fichus nuages.
Oui. Et du côté de la jeune génération, Johanna, qu'est-ce qui fait rêver au départ ? Qu'est-ce qui allume l'étincelle ?
Mon papa est pilote, donc j'ai toujours eu la tête tournée vers le ciel. Et je pense que j'ai juste voulu aller plus loin. En plus, c'était un grand fan de Star Wars. Donc je pense que toutes les histoires qu'il m'a toujours racontées par rapport à cet univers-là m'a fort intéressée. Et je reste une grande fan aujourd'hui. Donc je pense que c'est ça mon inspiration.
Oui, oui. Papa aussi, parcours inspirant, parce que pilote de chasse en Bulgarie, obligé de quitter le pays. Et il se retrouve livreur de pizza à New York.
Ouais, bah à Los Angeles, mais oui, c'est la même idée, donc pas facile. Je pense que tous ces parcours difficiles des générations précédentes forgent et apprennent à travailler, à persévérer. Je pense qu'elle était très importante dans ce domaine.
Avec la patience aussi, Omar ?
Tout à fait, c'est vraiment ça, la patience. Ça ne fonctionnera peut-être pas du premier coup, que ce soit quand on postule pour astronaute ou n'importe quel métier. Et la patience, c'est vraiment la clé, en tout cas, qui permet d'accéder à finalement ce qu'on veut, décrocher son métier de rêve, en tout cas.
Oui, la patience, la passion, et puis les rencontres. Vous, c'est un peu par hasard. La Guyane, c'est une rencontre au départ.
Tout à fait. C'était en 2015, et donc j'ai participé à une summer school, donc une école d'été, qui avait lieu à Brême, en Allemagne. Et dans tous les étudiants, il y avait trois ingénieurs au Centre spatial guyanais. Et donc voilà, c'était mon premier contact avec la Guyane. Je ne savais absolument pas où c'était. Lorsqu'ils m'ont dit Guyane, je savais pas localiser en tout cas le pays sur une carte. Et puis par la suite, de fil en aiguille, on a tout de suite accroché. On est devenus amis, on s'est revus par la suite. Et c'est là qu'ils m'ont proposé justement de venir travailler en Guyane, à Kourou, en 2018 déjà.
Ouais, ouais. Vos premières impressions en arrivant justement là, il y a un peu plus de 5 ans ?
Alors ma première impression, c'était vraiment une stupéfaction, mais dans le bon sens du terme, dans la mesure où voilà, c'est un département français d'outre-mer, qu'on connaît souvent sous le nom de Dom-Tom. Et vraiment, c'est cette différence avec la France métropolitaine dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a aussi l'aspect que la Guyane est en Amazonie. Donc il y a la forêt amazonienne, il y a la faune, la flore, il y a l'humidité et la chaleur. Donc tous ces éléments-là font que voilà, c'est vraiment une fracture par rapport à ce qu'on connaît en Europe. Et dans un dernier temps, il y a cette diversité culturelle. Il faut savoir que la Guyane fait partie de ce qu'on appelle le plateau des Guyanes. Donc il y a la Guyane française, au-dessus il y a le Suriname, l'ancienne Guyane hollandaise, et le Guyana, qui est l'ancienne Guyane anglaise. Et donc ce qui fait en fait que c'est un territoire qui a connu pas mal d'arrivées de peuples de part et d'autre d'Amérique du Sud. Et ce qui fait que voilà, c'est cette mixité culturelle est extrêmement intéressante en Guyane.
Je vous engage à aller voir les images et le clip qu'on a mis en ligne sur lapremière.be et sur les réseaux sociaux des Belges du bout du monde. C'est un pays incroyable, la Guyane, qui fait rêver aussi le contraste entre la modernité du site aérospatial de Kourou et puis la forêt vierge à quelques kilomètres à peine. On est en Amazonie, quoi.
Tout à fait, c'est exactement ça. On a un centre spatial qui est à la pointe de la technologie, ouais. Il faut quand même le rappeler. Et dès qu'on sort de ce centre spatial, on se retrouve en pleine forêt avec la faune qui est... Voilà, c'est un milieu qui reste assez hostile. Bon, il y a les moustiques, il y a pas mal de jaguars sur le centre spatial, il faut le connaître. Des fois, On a des caméras de sécurité qui filment des jaguars, toutes sortes de félins.
Un jaguar qui veut rentrer dans la base
Qui passe par les barbelés, puis qui fait demi-tour. Il se dit que c'est pas forcément une bonne idée.
Il a raison.
Et puis voilà, enfin les anacondas et j'en passe. Mais ça fait vraiment partie du charme de la Guyane qui est exceptionnel.
Ouais. Vous aussi, vous êtes une grande voyageuse, hein, Yael Nazé. Vous êtes professeur dans différentes universités, sur 3 continents différents, je crois. En Europe, en Afrique et aussi en Amérique.
Oui, j'ai donné des cours un peu à gauche et à droite comme ça. Ça fait partie aussi du charme, je vais dire, d'une carrière de chercheur, c'est que c'est souvent très très international. Et particulièrement en astronomie, hein, ça fait des siècles et des siècles que les astronomes aiment bien partager leurs informations, leurs questionnements vraiment au-delà des frontières. Et donc, c'est vraiment le genre de carrière qui permet de rencontrer des gens d'un peu partout, d'aller vraiment sur place à différents endroits. Et donc, c'est une très grande richesse. Franchement, c'est vraiment une partie qu'on ne regrette pas du tout. Hein, ça, pas du tout.
Alors, il y a beaucoup de chercheurs et d'ingénieurs qui sont originaires du centre et du Borinage, comme vous, qui travaillent dans le spatial. Et je crois que vous avez un début d'explication, Yael.
On a pas mal de gens qui viennent souvent de familles d'ouvriers qui étaient dans les charbonnages. Et finalement, on peut se dire que voilà, on a creusé la terre pendant très longtemps, mais bon, quand on sortait des mines, on regardait vers le haut et ça a dû laisser des traces.
Pas mal comme trajectoire, hein, partir du fond de la terre et puis aller vers les étoiles. C'est très inspirant, Omar. C'est aussi un petit peu votre histoire, celle de votre famille.
Tout à fait. Moi, j'ai mon grand-père, en tout cas du côté paternel, qui est arrivé du Maroc au début des années 60, justement, pour travailler dans les mines à Charleroi. Par la suite, mon père est arrivé, il est âgé de 6 ans. Ma mère est arrivée beaucoup plus tard. On nous a vraiment inculqué ce travail acharné, ce besoin de se dépasser, de devoir faire le double de ce qu'on peut faire pour atteindre ses objectifs. Et c'est encore une fois grâce à cette première génération, en tout cas, que la génération actuelle, et je suis un parmi tant d'autres, qui ont pu évoluer, je ne vais pas parler d'ascenseur social, mais en tout cas, qui ont pu atteindre leurs objectifs et poursuivre leurs rêves. Et ça, c'est grâce en tout cas à l'effort de nos grands-parents.
Oui, c'est plus qu'un ascenseur social, c'est quasiment la fusée avec vous. Hein. De Châtelineau à Kourou, bravo hein, Omar, c'est très bien. Allez, on va marquer une petite page de pub et puis un petit cassave, ça vous ferait plaisir?
Ah oui, je veux bien, en cette période de carnaval, ça fera plaisir.
Les Belges du bout du monde,
9h-10h sur la première,
avec Adrien Jouvenot.
Merci de nous suivre en direct le dimanche matin avec les Belges du bout du monde. Depuis 36 ans maintenant, ou en podcast, quand vous voulez, en balado-diffusion, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. C'est sur Ovio ou sur toutes les plateformes de téléchargement. Nous sommes sur la plateforme de décollage à Kourou avec Omar Lamoui. Vous avez un décollage prévu cette année, Ariane 6? On a une petite idée, ce sera pour la fin d'année?
Exactement, on attend toujours le communiqué officiel de l'ESA. Mais en tout cas, un créneau qui est donné, c'est mi-2024. On espère vers juillet le premier lancement de la fusée Ariane 6.
D'accord. En attendant, on va s'éclater au carnaval. 17 mars, c'est la Saint-Patrick en Irlande. Mais en Guyane, c'est la musique créole et le zouk. Scier bois, voilà, c'est peut-être pour les gros ronfleurs aussi, ça cassave, mais ça réveille, hein, ça met de bonne humeur. Vous sortez, j'imagine, un petit peu à Kourou, Omar?
Alors, en cette période de carnaval, il y a les parades tous les week-ends, samedi et dimanche, où on voit défiler toutes sortes de danses, etc., de chars, un peu comme ce qui se fait au Brésil, mais à la sauce guyanaise. Et c'est vraiment des super moments, on voit pas mal d'ambiance dans les rues de Kourou et de Guyane en général.
Alors, si on ne sait pas aller sur place, on peut écouter les Belges du bout du monde, on rêve un peu, mais il y a aussi une série que vous aimez beaucoup.
Oui, tout à fait. C'est la série Guyane qui était en transmission sur Canal+, à l'époque, et qui justement met en scène toute la problématique liée à l'orpaillage en Guyane. Il faut savoir que ben voilà, la forêt amazonienne, à l'époque de la ruée vers l'or, c'est une terre en tout cas qui est aurifère et qui est chargée d'or. Et justement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a dans la forêt guyanaise cette problématique de l'orpaillage qui est donc justement là des mines illégales de collecte d'or. Et elle représente justement, elle met en scène ceci d'une manière incroyable. Et justement, toute la faune, la flore encore une fois de la Guyane et les rues de Cayenne qui sont magnifiques.
Oui, vous êtes allé sur ces fameuses pirogues ?
Tout à fait, les pirogues que je prends justement pour aller au Suriname. Savoir qu'entre la Guyane française et le Suriname, il n'y a pas de pont qui relie les deux pays. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je veux aller au Suriname, je traverse en pirogue. Ça coûte 10 euros et ça prend 10 minutes de traverser.
Ouais, et Johanna Dimitrova, elle se dit, si j'allais faire un stage en Guyane, non ?
Ah oui, ça, ce serait pas mal. Hein.
Ouais.
Il le vend très bien.
Ouais. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver. Vous parliez tous les deux de la gratitude que vous avez envers vos parents, les valeurs qu'ils vous ont inculquées. Vous aussi, Yael Nazé, je crois que toute petite, depuis vos 10 ans, vous vouliez être astronome.
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que mes parents ne sont pas du tout là-dedans. Donc, ils ne connaissent pas vraiment ce domaine. Mais ils se sont pas non plus posé trop de questions. Ils se sont dit, bon, ok, ça l'intéresse. Donc, ils m'ont acheté des bouquins et puis ils se sont arrangés pour faire des vacances là où il fallait, par exemple, aller en Provence en faisant un petit détour par Saint-Michel à l'observatoire ou aller à Nancy au grand radiotélescope. Ils m'ont laissé la possibilité de me lancer là-dedans et c'est vraiment important parce que c'est vrai qu'on laisse trop souvent les rêves un peu s'éteindre et je crois qu'il faut rester curieux et rester rêveur.
Vous avez réalisé vos rêves aujourd'hui et vous les partagez dans des conférences, dans des livres aussi parmi vos œuvres. Il y a « Art et astronomie, impressions célestes ». C'est paru en 2015 aux éditions Omniscience. Vous revisitez l'histoire de l'art dans son rapport au ciel. Et vous avez d'ailleurs à ce sujet une conférence sur la musique et l'astronomie avec votre fille de 12 ans au violon.
Oui, alors en fait, c'est vrai que j'ai d'abord regardé un petit peu le côté plutôt beaux-arts, peinture et ce genre de choses. Mais la musique et l'astronomie, il y a quand même un truc un peu particulier. On a des liens, la fameuse musique des sphères. Hein, donc depuis l'Antiquité, il y a des liens très très importants. Et donc au fil du temps, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de choses avec des orchestres, avec des compositeurs, avec plein de choses. Et puis finalement, il se fait que ma fille, elle, c'est pas du tout l'astronomie qui l'a fait vibrer, c'est plutôt le violon. Et donc, je lui ai proposé qu'on fasse quelque chose à deux. Et donc, moi, je cause un peu d'astronomie et des liens entre musique et astronomie. Et pendant ce temps-là, eh bien, elle joue du violon. Et on refera d'ailleurs cette conférence pour la Nuit des Étoiles à l'Eurospace Center cet été.
Elle s'appelle comment, votre fille ?
Anaïs. Anaïs Céleste, de son deuxième prénom.
Vous m'étonnez, Céleste. Pour les Grecs de l'Antiquité, vous le disiez, il y avait pas mal de liens. Il existait aussi 7 planètes. Et au moment de créer la gamme, ils ont choisi 7 notes. Et la musique céleste viendrait aussi des sons parfaits issus du mouvement des planètes. Il y a pas mal de liens entre la musique et les astres. Alors certains compositeurs ont utilisé par exemple des données liées aux étoiles pour créer leur œuvre, comme un certain David Bowie.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you.
David Bowie, il apporte de l'eau à votre moulin. Hein. Il s'est beaucoup inspiré de l'espace pour composer, Yael Nazé.
Oui, tout à fait. Il y a énormément de choses. Hein. Il y a encore un album de Pearl Jam qui vient de sortir qui s'appelle Dark Matter. Donc, ça continue. Non, c'est sûr que l'astronomie, la musique des sphères, c'est quand même quelque chose qui nous titille toujours. Mais il faut dire que voilà, les grandes questions, hein, un peu de philosophie, je vais dire, de base, hein, c'est vraiment les origines, le destin, la question de l'ailleurs. Donc, ça a toujours un peu surpris et questionné les humains. Et donc, je crois qu'il ne faut pas s'étonner si finalement, il y a beaucoup de domaines où on retrouve des liens avec le ciel et qui ne sont pas nécessairement des domaines scientifiques.
On peut avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur les pédales aussi, comme Raphaël Liégeois, notre astronaute. Avant d'être engagé à l'ESA, ben, il a fait Singapour, Liège à vélo.
Le vélo, c'est venu un petit peu avant ça. C'était quand j'étais en thèse, j'ai fait tous les trajets vers le Sartilement à vélo et j'étais, je pense, un des seuls à ce moment-là.
Et ça monte pour aller.
Oui, oui, c'est aussi pour ça que ça décourage un petit peu les gens, mais on se sent tellement bien après. Et puis, on voit parfois le 48 qui est bien bondé. Et j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à rouler dans Liège, dans le centre-ville aussi. Voilà. Et par rapport à Sur la route des poètes, ben oui, en fait, on voulait une transition entre Singapour et la Belgique. On se sentait pas de prendre l'avion le lundi soir et d'arriver le mardi matin en Belgique en disant, OK, notre vie à Singapour est terminée, on revient en Europe. Et donc, on a choisi de rentrer à vélo parce que c'est un moyen extraordinaire d'aller à la rencontre des différentes cultures par sa lenteur, je pense. C'est vraiment, je pense, la bonne vitesse. À pied, ça serait peut-être un peu trop lent. Et tout ce qui nous est arrivé de bien, de chouette, d'extraordinaire, toutes les rencontres qu'on a faites, elles sont arrivées parce qu'on était à vélo, parce qu'on passait par des endroits qu'on n'aurait jamais traversés si on avait été en voiture ou des choses comme ça. On a traversé 13 ou 14 pays, ça dépend si on compte Saint-Marin ou pas. Et on est passé par donc la Malaisie au début, la Thaïlande, le Laos, etc., l'Inde, l'Iran. Et voilà, on a rencontré des poètes. Du coup, on n'a pas encore parlé de la poésie. On voulait rencontrer des poètes parce qu'on se disait que quand on prend le temps de s'asseoir et d'écrire de la poésie en tant qu'amateur, c'est vraiment qu'on a quelque chose à dire et on se disait que c'était un bon moyen d'aller à la rencontre de ces différentes cultures. Donc, on a rencontré des moines au Laos qui parlaient de la beauté de la nature, vous parliez du Laos. On a rencontré des immigrés à Singapour qui parlaient de la difficulté d'être loin de leur famille, donc des travailleurs immigrés du Bangladesh. On a rencontré un moine d'Orval qui parlait de la prière, de ce que la prière représente pour lui. Donc au-delà de boire une bière, il y avait autre chose de très intéressant là-bas, c'était d'en apprendre un peu plus sur le quotidien des moines. Donc vraiment un moyen qu'on a trouvé extraordinaire pour aller à la rencontre de ces cultures.
Ouais, il n'y a pas que les fusées, hein. Bêtement un vélo et on voyage. On est impressionné. Hein.
Tout à fait, je suis vraiment impressionné par le parcours et surtout la distance. On parlait encore une fois de patience un peu plus tôt dans l'émission. Mais c'est un bel exemple. Parce qu'à vélo, ça ne doit pas être facile de faire autant de pays, autant de kilomètres.
Ouais. Patience et persévérance. Hein. Singapour-Liège, ça fait quelques bornes, quelques crevaisons aussi. Vous faites un peu de vélo, Johanna, pour aller à l'université à Liège ?
Non, moi je fais partie des étudiants dans le 48
bondé.
Mais je fais de la danse et du coup, ça me parle beaucoup quand Yael et Raphaël parlent d'art et d'espace ensemble. Donc je suis contente de savoir que les personnes qui m'inspire, partage les mêmes passions de l'art comme moi.
Oui, oui. Et puis c'est important de faire du sport quand on veut être astronaute. Hein.
Tout à fait.
Ouais. Nous, on fait le grand écart entre David Bowie et la Compagnie Créole.
Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'as doudou bien balancé, coupe les bols super sapés, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon, bon, c'est bon.
Retrouvez les photos et les vidéos des Belges du bout du monde sur nos pages Instagram, hashtag La Première et Adrien Jovenot.
C'est bon pour le moral, la Compagnie Créole, une chanson qui occulte les difficultés des dom-toms, hein, parce que là on était un peu dans le cliché avec le douanier Rousseau, mais la réalité elle est parfois un peu plus dure. Omar, la momie, vous vivez depuis 5 ans et demi en Guyane, est-ce que c'est aussi rose que cela ?
Non, effectivement, et c'est un peu comme ça dans certains territoires d'outre-mer en France. Ça fait partie des réalités sur le terrain où forcément il y a un passé colonial qui est assez difficile, et notamment à Kourou, où justement ce passé il est ancré dans les populations locales, où on ne va pas l'effacer comme ça d'un revers de main. Mais simplement, ce qu'il faut, c'est dans un premier temps, c'est le savoir. l'avoir en tête, l'assimiler et surtout faire attention dans la manière dont on interagit avec les gens. Et surtout pas offusquer ou ne serait-ce que froisser certaines personnes sur ces aspects-là qui peuvent être très 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 sensibles. Donc voilà, j'irais que c'est des réalités, il faut les prendre en compte et faire avec simplement.
Et pas stigmatiser. Hein,
exactement, ouais, exactement, ouais. Tout à fait.
Alors bon, la compagnie créole nous parlait de son moral au Zénith. Vous, qu'est-ce qui vous met en joie quand vous levez le matin, Omar ?
Premièrement, c'est déjà de me lever le matin et d'être en bonne santé. Et dans un deuxième temps, c'est prendre ma voiture, voir qu'il fait beau, que je pars en travailler toute l'année en t-shirt. Et je me mets une très bonne playlist quand je prends ma voiture et je vais au boulot le matin.
Vous écoutez parfois la RTBF ?
RTBF Ovio, oui. J'ai toujours mon compte qui est activé. Alors, je regarde les matchs, certes, parce que voilà, c'est gratuit depuis mon PC. Mais je suis toujours l'actualité en Belgique et ce qui se passe notamment à Charleroi.
Est-ce qu'ils savent là-bas que vous êtes belge ?
Alors non, parce que avant que je le dise forcément sur mon faciès, ça ne se voit pas forcément. J'ai certains accents des fois qui me trahissent, notamment
vous parlez de 90 aussi.
De 90, oui, c'est vrai, je me suis surpris encore.
Et puis quand le roi Philippe arrive à Kourou, là on remarque que vous êtes belge quand même.
Alors ouais, c'est vrai que ça c'était encore une super expérience, c'était la rencontre avec le roi Philippe, la discussion qu'on a eue ensemble. Et c'est vrai que là, ouais, ça faisait plaisir de voir en tout cas tous les Belges de la base réunis pour cet événement.
L'espace, les voyages aussi sur Terre, quand on habite à Kourou, en Guyane, on est à portée de main de plein de pays d'Amérique latine. Où allez-vous vous promener quand vous avez un peu de congé, Omar ?
Alors, quand j'ai des congés, moi, mes destinations principales vont être le Brésil, dans un premier temps, et récemment la Colombie. Il faut savoir que l'aéroport de Cayenne est assez peu desservi. Donc, ça veut dire que les deux aéroports les plus proches sont au niveau du Brésil, dans le nord, dans la ville de Macapá, et au Suriname, à Paramaribo. Et encore une fois, ça rajoute en tout cas un certain exotisme
ouais.
Exactement au voyage, parce que forcément, il faut prendre sa voiture, il faut aller jusqu'au fleuve, il faut traverser le fleuve en pirogue. Ensuite, quand je vais au Brésil, il faut encore rajouter 7 heures de 4x4 dans lequel on passe par des pistes en pleine forêt amazonienne.
Quelle galère !
C'est une galère, mais en tout cas, c'est un vrai plaisir parce qu'on a vraiment cette sensation de voyage et quand on aime le voyage, il n'y a pas mieux.
Ah, vous nous faites rêver, hein. C'est génial. Franchement, parce que moi, je pars en week-end à Luxembourg, mais là, vous partez en week-end au Suriname ou au Brésil ou en Colombie ?
En Colombie, tout à fait. En Colombie, là, je suis passé par Paramaribo. Donc, depuis l'aéroport. Bon, Paramaribo, c'est le Suriname. Il parle néerlandais. Donc, encore ce lien avec la Belgique.
Ça vous aide, hein ?
Ça nous aide. Ces cours de néerlandais que je maudissais quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, ils me sont assez utiles. Et puis voilà, je suis passé par le Panama. On a fait escale et ensuite j'ai atterri à Bogota. Mais c'était un voyage inoubliable, hein. C'est l'Amérique du Sud. C'est vraiment cette sensation de liberté et surtout de changement d'environnement, etc. C'est superbe.
Yael Nazé, vous avez donné cours aux États-Unis, vous avez donné cours au Burundi, déjà en Amérique latine aussi ?
Non, mais par contre, l'Amérique latine, c'est un coin que les astronomes connaissent bien parce que c'est au Chili, il y a évidemment de très grands observatoires et donc c'est clair qu'on en profite aussi quand on est sur place pour se balader un peu. Et c'est vrai que le désert d'Atacama, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Je veux dire, le ciel là-bas, ça n'a rien à voir avec le ciel belge, hein, clairement. Et donc voilà, c'est... Non, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, c'est quelque chose de super sympa aussi.
Oui.
Le Mexique aussi, j'aime beaucoup, j'ai été plusieurs fois.
Alors, vous vous inspirez de tous ces voyages et puis de votre passion pour l'astronomie, pour réaliser des vitraux et des bijoux aussi. Je crois que votre papa vous a filé un coup de main parce que vous venez d'une famille de verriers du Borinage. Oui. Et vous avez publié un livre de gastronomie, avec le G en parenthèse, gastronomie, astronomie, qui rassemble des recettes de gâteaux dont la forme et les couleurs évoquent les étoiles, les planètes et les satellites. Ça, c'est incroyable.
Oui, en fait, l'idée, c'était de faire des activités pour les enfants et des activités un peu sympas où on en profite pour apprendre deux, trois petites choses en s'amusant. Et puis, les grands aiment bien aussi, parce que franchement, moi, les cookies et les brownies, je suis pour aussi. Hein, donc, voilà, c'est l'occasion, en fait, de faire deux, trois petites activités un peu sympas, parce que c'est vrai que parfois, la science, ça peut paraître rébarbatif, ça peut paraître super difficile et vraiment pas pour moi et tout ça. En fait, je crois vraiment que la science, c'est pour tout le monde. Il ne faut pas avoir cette peur. Et donc, passer par l'art, passer par deux, trois petites recettes sympas, ça permet de rapprocher les gens des sciences et d'essayer d'évacuer cette peur. En fait.
Il paraît que vous êtes capable de reproduire le Big Bang dans votre four en cuisinant des cookies au chocolat.
Ah oui. Non, mais ça, c'est super facile, en fait. Hein. Je suis sûr que le maître y avait pensé hein, quand il faisait des biscuits à Charleroi.
Alors, on va revenir un petit peu dans l'espace guyanais où notre Belge du bout du monde travaille depuis 5 ans et demi à Kourou. Là, vous êtes de passage en Belgique pour arroser vos racines familiales. Pour vous, la Belgique, c'est quoi ?
La Belgique, c'est là où je me sens chez moi. Si vraiment je devais le définir en une phrase, c'est ça. Parce que ça peut paraître un peu paradoxal, mais quand on est marocain issu d'immigration, on se sent marocain par sa culture, mais on se sent chez soi en Belgique. C'est assez paradoxal, ça peut ne faire pas beaucoup de sens pour ceux qui n'ont pas vécu ces situations. Mais si vraiment je devais le définir en une phrase, c'est ça.
Johanna Dimitrova, le même sentiment ?
Totalement d'accord, vraiment, tu l'as bien dit. Je suis bulgare de sang, mais belge de cœur. C'est la famille que j'ai choisi d'avoir, la Belgique. Donc je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire.
Raphaël Liégeois, lui, il est parti s'expatrier en Allemagne pour suivre la formation à l'ESA. Bah, il nous parle de ses projets.
Alors, en effet, donc, début avril, début de l'entraînement de base, ça s'appelle. Donc, pendant un an, on va avoir des cours de russe, des cours dans différentes disciplines pour nous remettre à niveau. Et puis aussi des événements de team building où on va passer du temps à 5 avec la classe de 2021. Et après ça, on va attendre d'être assigné à une mission. Donc là, ça peut durer quelques temps. Et une fois qu'on est assigné à une mission, on a 2 ans de préparation pour être fin prêt au décollage. Donc ça veut dire qu'il y aura un premier vol pour 2026 au plus tôt, si je suis le premier de ma classe à voler, ce qui est peu probable, on est 5. Donc voilà, c'est les échéances à venir pour moi.
Dans les modèles, on parlait de Tintin, on parlait de Frank De Wijn, on parlait de Dirk Vreemoot. Il y a aussi Thomas Pesquet.
Oui, bien sûr, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est un sentiment un peu particulier. Donc la veille de l'annonce, on a eu une réunion avec les astronautes de la classe de 2008. Et ouais, c'est un sentiment très particulier parce qu'à la fois, c'est des visages très familiers qu'on a beaucoup regardés quand ils étaient dans l'ISS, mais aussi ailleurs. Et puis, on se retrouve à manger avec eux, à leur proposer un café ou quelque chose. Donc oui, non, évidemment, un modèle, en particulier pour la communication et les photos qu'il a faites, qui sont absolument magnifiques. Donc j'espère pouvoir passer encore un petit peu de temps avec lui pour qu'il m'apprenne comment il a fait.
Un engagement pour la planète aussi qu'on sent chez lui et que je devine chez vous.
Oui, bien sûr. C'est aussi pour ça qu'on aime beaucoup le vélo. Nous, on fait des vacances en vélo. Donc, il y a quand même une petite satisfaction de se dire qu'on est parti de la maison et on revient sans avoir utilisé aucun moyen de transport polluant.
Mais avec une traversée des Alpes, par exemple, l'été dernier.
Oui, tout à fait. L'été dernier, on voulait retrouver ce qu'on avait vécu pendant notre voyage à vélo de Singapour jusqu'en Belgique, où on n'avait pas d'enfants. Et puis là, on a eu des enfants, on a 2 enfants. Et cet été, on a traversé les Alpes, donc c'était pas toujours très rapide, avec 2 enfants dans la charrette, mais c'était magnifique.
Raphaël Liégeois, c'est bien, l'espace et puis la proximité aussi des voyages près de chez nous à vélo. Vos projets à vous, Johanna, Omar, Yaël. Allez, Omar d'abord.
Ben, mes projets, en tout cas, moi, c'est de poursuivre dans le domaine du spatial. C'est un domaine qui me passionne. Et on verra où le vent me mènera. Mais en tout cas, là, pour le moment, je suis bien à Kourou. Et s'il y a d'autres opportunités qui se présentent à moi, je les prendrai avec grand plaisir.
Johanna ?
Ben, moi, j'ai encore 1 an et demi à Liège. Donc, j'espère terminer mon master à temps, faire un stage, j'espère, à Kourou.
Et vous, Yaël, en ce début de printemps, vos projets ?
Bah, y a pas mal de projets un peu dans tous les domaines, évidemment, que ça soit des conférences un peu partout, de nouvelles écritures, et puis bien sûr au niveau scientifique, hein, plein encore de questions à résoudre, de mystères dans ces étoiles massives, donc voilà, il y a du boulot.
Il y a du pain sur la planche. Tant qu'on parle de projets, un petit mot avec Pierre Dupont qui nous a rejoint en studio. Pierre, bonjour. Vous êtes responsable de l'IMS, la section internationale de Polytech à Mons. Et quand on voit et on entend les ingénieurs qui sont passés sur antenne ce matin, chapeau parce qu'ils ont été formés chez vous. Yaël et Omar, ils viennent de Polytech Mons.
Tout à fait, Adrien. En fait, je suis très heureux de revoir Omar, qui est l'un de nos ambassadeurs à l'international, puisque la IMS, c'est l'association des anciens ingénieurs civils sortis de la faculté polytechnique de Mons, hein, vieille institution, puisqu'elle est née en 1836. Et donc, on imagine bien qu'un certain nombre de ces ingénieurs sont partis à l'étranger, tels qu'Omar.
Yaël parlait tout à l'heure du Chili. Il y en a qui travaillent à Paranal, par exemple.
Certaines personnes ont travaillé à Paranal. Nous-mêmes, en Belgique, nous avons eu l'occasion de travailler sur des projets pour Paranal ou pour d'autres sites. La Belgique recèle d'un grand nombre de sociétés qui sont actives dans le domaine spatial, à très haut niveau d'ailleurs. On a des membres un peu partout en Amérique latine et notamment au Pérou également, pas très loin d'où se trouve Omar.
Il y a le télescope de la NASA aussi à Hawaï. Et puis, il y a la Nouvelle-Zélande. On a eu un Belge du bout du monde qui s'appelle Sandy Tirté, qui est très actif aussi.
Tout à fait, c'est l'un de nos ambassadeurs pour la Nouvelle-Zélande. Il est actif dans une société qui fabrique des lanceurs pour mettre en orbite des microsatellites.
Eh bien, on vous souhaite bonne chance avec votre moto. Moto, je dis votre mot d'ordre, hein, ce que je veux dire, pas la moto, mais partager pour inspirer, visiblement, vous le faites et vous fêterez vos 10 ans en décembre 2024. Déjà, bon anniversaire. Merci aussi à Paul Michel qui réalisait cette émission, mise en image par Léa Defour sur les réseaux sociaux des Belges du bout du monde, racontée par Christian Van Deloye sur lapremière.be. C'est une production de Françoise Pastel. La semaine prochaine, nous serons au Japon avec les musiciens Globetrotter, Lisbeth et Yorick Troman. Et merci à Yael Nazé, Omar Lamoumi et vous, Ioana Dimitrova. Bonne continuation, les amis. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Merci à vous. Au revoir.
Bye bye.
Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Podcast.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.